C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, on va parler d'élections ce matin, bien sûr. Premier sujet pour les commissaires, comment expliquer une victoire aussi claire que ça, sans équivoque, un balayage de la CAQ? Luc?
Bien, 40 % des Québécois ne sont pas aussi inquiets que la classe des intellectuels puis des journalistes et compagnie. T'sais, nous autres, on évoque des crises tous les jours, là. Des crises... l'éducation, la santé, la DPJ, la crise de main-d'œuvre, l'environnement. Hier, il manquait énormément de personnel en adaptation scolaire. La veille, il manquait du personnel en sûreté, même à Sûreté du Québec, le centre d'appel de la Sûreté du Québec, ils ont pas assez de monde pour diriger les appels. Donc, on est tout en train de s'inquiéter. Mais ça a l'air que la population s'inquiète moins. Puis qui trouve qu'il a fait une bonne job. Ben c'est correct, tu sais, je veux dire, c'est ça la démocratie. Puis peut-être que notre niveau d'inquiétude, des fois, il est stimulé par la job qu'on fait. Et c'est la première chose. La deuxième chose, le gouvernement n'a pas totalement démérité dans pas mal de dossiers. Moi, je trouve pas qu'il est allé au fond des choses, mais néanmoins, il a fait des choses. C'est comme, tu sais, quand il manquait des infirmières, ils ont engagé. Ben, ou, on sait pas, mais toujours bien qu'ils ont dit qu'on va engager. Ils ont réalisé qu'il y avait un problème, puis ils sont pas juste fermé les yeux. Ils ont augmenté les salaires en éducation, ils ont mis du personnel administratif pour aider les professeurs en première ligne, ils ont donné des subventions pour la formation des maîtres, mais aussi pour la formation des infirmières puis des médecins puis d'autres métiers. Donc, ne pas complètement démérité. Troisièmement, dans les villes, les campagnes et les banlieues n'ont pas la même perception que les problèmes sociaux. C'est dans les villes les problèmes sociaux qui sont les plus importants. Dans le fond de ton cul-de-sac, avec ton driveway et ta maison, t'en as des problèmes. T'en as un maudit paquet de problèmes. T'as l'inflation, t'as l'accès aux soins de santé, etc. T'as pas des itinérants dans ta face tous les jours. Tu ressens pas la difficulté d'intégration des immigrants. Tu ressens pas la difficulté, les difficultés économiques de la même manière, par exemple, le problème de logement que dans les villes. Or, les villes ont voté contre la CAQ.
Nathalie.
Ben moi je dirais trois choses. Les Québécois aiment M. Legault. Il faut le dire. Là. On l'aime M. Legault. Il incarne cette espèce de sécurité, de confort, de confiance. Je dirais pourquoi ce balayage à CAQ, les faiblesses des oppositions. Ça il faut le dire et le répéter là. Honnêtement, si l'hégémonie de la CAQ se concrétise de façon aussi spectaculaire, c'est parce que les oppositions sont faibles. Et je dirais troisièmement que les Québécois sont très confortables au centre sur l'échiquier politique. Et ils sont très, très au centre, puis on souhaite... En fait, on sent qu'ils souhaitent demeurer au centre. Par contre, ce mandat qui s'annonce pour la CAQ est tout sauf tranquille. Hier, j'entendais... à notre micro, justement, Jean-Luc Mongrain avait une discussion avec Sonia Lebel, une des stars du gouvernement. Est-ce qu'elle occupera encore la présidence du Conseil du Trésor? Ça reste à voir. Mais elle disait, on souhaite avoir un mandat plus tranquille que celui qu'on a eu depuis 2018 à cause de la pandémie. Non, Madame Lebel, vous n'aurez pas de mandat tranquille. Pourquoi? Parce que il y a des enjeux incroyables qui sont sur la table de travail du premier ministre et de ses futurs ministres. Tu parlais, Luc, bon, d'éducation, de santé, de logements sociaux, la pénurie de travailleurs, la détérioration dans les services publics, la démobilisation du personnel dans le réseau de l'éducation, dans le réseau de la santé. Alors, les défis, là, sont gigantesques pour la CAQ. Le slogan « Continuons » peut-être, mais il faut aussi se réinventer, se repositionner, refonder le système de santé. Alors, François Legault a énormément de travail devant lui. Et pour moi, hier soir, cette victoire, c'est aussi la victoire des femmes. Et je salue la presse qui a publié un article ce matin, un nombre record de femmes élues, 60 femmes sur 125 élues à l'Assemblée nationale. C'est 58 % des femmes. Alors, je dis bravo, je salue cette audace qu'on a eue comme Québécois hier soir.
Qu'est-ce que tu ajoutes?
J'ajoute que deux, trois affaires. Premièrement, faiblesse des oppositions, t'as tellement raison, Nathalie. Et c'est même pire que ça. Est-ce qu'il y avait un parti hier qui était prêt à gouverner? Qui a posé cette question-là? Je me rappelle plus, mais quelqu'un l'a posé, elle n'est pas de moi. Y avait-il un parti qui était prêt à gouverner à part la CAQ? Sans doute que non.
Ben, la réponse, c'est pas sans doute, c'est aucun.
Ouais.
Aucun.
La deuxième chose, c'est que moi, je pense que les oppositions n'étaient pas prêtes à gouverner d'une part. D'abord, ne serait-ce que par... Ben, l'équipe, tu sais, comme par exemple, on l'a bien vu, là, à la fois Dominique Anglade puis le Parti libéral était dans le mode sauver les meubles. Mais plus que ne pas être capable de gouverner, ne pas être prêt à gouverner, pas je dis pas qu'ils sont pas capables, mais pas prêts, c'est est-ce qu'ils ont ressenti l'humeur des Québécois? Tu sais, je veux dire, quand le Parti québécois, j'écoutais le discours de Nadeau-Dubois, nous avons résisté à la vague, nous sommes les seuls à avoir résisté à la vague. Et là, la prochaine fois, ben t'as pas résisté à la vague, mais c'était pas ça ton plan. Là. Ton plan, c'était pas de d'élire juste du monde sur la ligne orange à Montréal. Ton plan, c'était de t'étendre dans tout le Québec. Fait que là, faut que tu prennes acte, là.
Mais ça, c'est un argument politique pour démontrer à quel point, finalement, que on sait qu'on a mal fait, mais en même temps, puis on sait qu'on n'a pas scoré comme on aurait souhaité, ouais. Mais en même temps, ça prend un argument mais pour justifier là où ils sont
si
aujourd'hui.
Si on prend à l'envers un peu, là, qui peut devenir la véritable opposition officielle menaçant la CAQ dans 4 ans?
Mais bizarrement, je pense que c'est le Parti libéral.
Bizarrement, c'est une excellente question. Il y a un vote de confiance en 2023 au Parti libéral du Québec. Moi, j'ouvre une parenthèse. Dominique Anglade, on a dit tellement de choses sur elle. Les attentes étaient au plancher. On pensait que le Parti libéral du Québec allait disparaître de la carte. Oui, ce qu'elle a fait hier, c'est un exploit. Elle a été combative, énergique, déterminée. Maintenant, là, mais les militants aujourd'hui ne peuvent pas lui montrer la porte. Là. Ce serait totalement indécent puisqu'elle a gagné dans son comté. Mais en 2023, lors du vote de confiance, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la fracture avec les francophones du Québec, elle est entière, elle est manifeste, elle est évidente. Alors, Dominique Anglade serait-elle toujours la chef, la bonne chef pour... excusez l'expression, connecter ou reconnecter avec les francophones du Québec.
C'est parce que ça va être ça aussi un des enjeux. Là. C'est pas oui. Juste de dire on est contre le gouvernement. C'est parfait, tu mets qui à la place? Le Québec solidaire, le Parti québécois, le Parti libéral, le Parti conservateur. Qui est l'alternative?
Bien, le seul... Moi, je pense que les Québécois, hier, ils nous ont dit et redit... Tu sais, quand tu regardes, pas juste le hier, là, quand tu regardes... Puis moi, je fais preuve de pragmatisme. Je suis pas en train de parler de mes propres opinions. Là, mais... quand tu regardes dans les 25 dernières années, t'as raison, Nathalie, ils votent plutôt pour la stabilité. Une stabilité social-démocrate, une stabilité où il y a un investissement de l'État dans les services sociaux, mais une stabilité quand même. Ils font pas d'écart. À part l'intermède du gouvernement Marois, là, il n'y a pas eu de grands partis disant on va brasser le monde, on va changer les choses, on va donner plus aux classes aux marginalisés. Bon, c'est au centre-gauche. Mais qui peut représenter le centre-gauche? Parti québécois, hier, moi, j'ai trouvé que le discours de Plamondon était théoriquement bon, tu sais, mais en même temps, pas réaliste du tout. Je veux dire, t'es à 15 %, là. C'est super que ce soit à 15 %. T'es à 7 % au début de la campagne. Bravo, bravo, 8 % et doublé son vote.
C'est extraordinaire. On pensait que le PQ allait mourir.
C'est extraordinaire. Mais, néanmoins, t'es à 15 %. Puis à 15 %, tu ne peux pas dire ce que tu as dit, que le Québec fait la preuve de son envie de rêver, de se mobiliser pour avancer encore. Tu peux pas dire ça, c'est pas vrai.
L'optimisme des chefs du PQ, mon cher Luc.
Ben oui, mais Dominique Anglade aussi, hein. Tu sais, Dominique Anglade, évidemment, ils sont tous obligés de dire une affaire de même, mais moi, j'aimerais qu'ils prennent note. Ils prennent note, tu sais. Prenez note de la situation. Puis la situation, c'est les Québécois sont très pragmatiques. Ils veulent une adéquation entre les problèmes puis les solutions. Ils veulent qu'on gère des problèmes. Ils veulent les grands projets de société, les grandes modifications, grandes préparations à la crise environnementale. Oui, mais c'est dans le cadre de la.
Mais il y a quand même un écart, pas un écart, mais un fossé entre Montréal puis le reste du Québec.
Oh hey my God.
Je regardais ça hier. Là, bon, t'as deux députés caquistes sur l'île. Non, et dans Anjou-Riel.
Oui, Anjou-Louis-Riel. Oui,
c'est deux. Deux au total. Mais tu sais, c'est rien, là. Tu peux. Puis je répète la question à différentes personnes depuis ce matin. Tu peux être PM du Québec sans avoir un appui à Montréal?
En fait, tu peux pas.
Mais tu peux.
Oui. Bon, tu peux, mais tu peux pas. Parce que regarde, tu peux pas. Regarde.
Tu peux pas ignorer Montréal.
Mais c'est parce que
si tu t'appelles François Legault,
non, tu peux pas l'ignorer.
80% de ce que François Legault dit,
tu peux te faire élire sans Montréal.
Oui, c'est clair. Mais 80% de ce qui préoccupe François Legault, ça se passe à Montréal. L'immigration, la langue, les nombreuses crises dont on a parlé, puis le développement économique. Il y en a du développement économique dans le reste de la province, là, mais Montréal est surdimensionné par rapport au reste de la province en termes de développement économique. Donc,
ben c'est quand même la moitié, ben le Grand Montréal métropolitain, c'est la moitié de la population du Québec, là, faut le dire. Et Dominique Anglade deviendra-t-elle la ministre de Montréal, la ministre officieuse de Montréal comme chef de l'opposition, compte tenu de qu'elle est concentrée à Montréal. Elle pourrait faire le poids face à une députation plus que maigre du côté de la CAQ à Montréal.
Au retour, est-ce qu'on change le mode de scrutin? Ça dépend si vous êtes favorisé ou pas par le mode de scrutin. Quand je me suis rendu compte de ça ce matin en faisant la petite tournée.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, à la suite des résultats de hier soir, la question est simple. Est-ce qu'on doit revoir le mode de scrutin au Québec, Nathalie?
Bon, on doit commencer par en parler avant de prendre une décision pour changer notre mode de scrutin. Hier soir, la CAQ a remporté 72 % des sièges avec 41 % du vote sur un taux de participation de 65 %. Rassurez-vous, ce n'est pas la première fois dans l'histoire que ça arrive. En 1973, M. Bourassa avait remporté 92 % des sièges avec 55 % des voix. Et l'histoire s'est répétée à plusieurs reprises dans l'histoire politique du Québec. Lorsqu'on entre dans les détails de ce que pourrait être la réforme du mode de scrutin, honnêtement, ça devient un peu compliqué. Le vote proportionnel, quelle serait la représentativité des régions dans ce Parlement reconfiguré. Mais je dis, il faut se donner la chance collectivement de pouvoir au moins en parler. Le premier ministre avait pris un engagement très ferme à la dernière élection. La CAQ avait même déposé un projet à l'Assemblée nationale. Malheureusement, on n'est pas allé très, très loin. On n'a pas allé plus loin que le projet de loi, mais c'était déjà plus loin que tout ce que les partis politiques avaient promis dans le passé. Alors, je me dis, il faut se donner les moyens d'en débattre. D'ailleurs, si Éric Duhaime était le moindrement, il pourrait saisir cette opportunité et en faire son cheval de bataille. Lui, qui s'est retrouvé avec 13 % du vote et zéro député à l'Assemblée nationale. Donc, il pourrait mettre les questions touchant la gestion de la pandémie puis l'enquête publique sur les CHSLD de côté. Là, les Québécois nous ont dit hier, on est ailleurs, on est rendu ailleurs, on veut regarder vers l'avant. Et Éric Duhaime aurait intérêt politiquement à enfourcher ce cheval de bataille et d'en faire un enjeu pour l'avenir de son parti.
Très bien. Ça ne se fera jamais. Il faut arrêter d'en parler tout de suite. Et terminé, merci. Au revoir.
Ben non, il faut avoir un débat, non, minimalement.
C'est clair.
On n'a jamais eu de débat. En fait, les partis politiques en ont parlé,
Nathalie,
mais on n'a jamais eu de débat.
C'est un projet d'opposition. C'est pas un projet du gouvernement, c'est un projet de l'opposition. Dès que l'opposition devient le gouvernement, ce n'est plus son projet, ça devient le projet de la nouvelle opposition. Le gouvernement, lui, considère que c'est le même. Dès que tu arrives au pouvoir, tu vas pas dire, ah ben là, je t'arrive au pouvoir, ça m'a pris... Hey, combien de temps ça a pris de Legault pour arriver au pouvoir? T'sais, comment il a ramé? Une fois qu'il arrive au pouvoir, il va dire, ah, finalement, il faut donner plus de pouvoir à l'opposition. Ça se fera jamais. Pareil, si un jour Québec solidaire arrive au pouvoir, pensez, vous dites, ben, écoute, là, il faudrait qu'on donne du pouvoir au Parti conservateur. Non, ils feront pas ça.
Une des réponses de François Legault à cet enjeu sur la réforme du mode de scrutin hier soir, et moi, ça m'a frappé, c'est le discours qu'il a prononcé, un discours de campagne électorale, et il a tendu la main aux autres partis d'opposition, puis il s'est imposé et présenté comme le rassembleur des Québécois. Mais pourquoi vous pensez qu'il y a eu ce genre de discours?
Oui.
Alors, justement, pour dire, écoutez, on n'a peut-être pas besoin de réformer le mode de scrutin. Moi, si je travaille avec les partis d'opposition...
Oui, mais attends, Nathalie, c'est pire que ça. Le nombre de minutes, les règles pour faire devenir un parti officiel à l'Assemblée nationale, c'est 20 députés.
20%
du vote ou
12 députés.
Et là, il y a seulement le Parti libéral qui atteint cette règle-là. Ça veut dire que là, le Parti libéral devrait partager une part de son temps de parole avec les autres partis pour que ça soit un peu plus représentatif. Est-ce qu'il va le faire?
Non, mais ça n'arrivera pas parce qu'il va y avoir des négociations à l'Assemblée nationale. Le Québec solidaire va être reconnu. On se retrouve avec 10 députés ce matin. Et
toi, tu dis qu'il va être reconnu, mais les règles ne supposent pas ça. C'est juste que tu dis Legault va transformer les règles parce qu'il a dit qu'il va falloir qu'on travaille avec les oppositions.
Pas François Legault, c'est une question qui relève de l'Assemblée nationale. L'autre chose, il y a un enjeu pour le Parti québécois. Est-ce que le Parti québécois va vouloir être reconnu comme un parti politique à l'Assemblée nationale, même s'il n'a que 3 députés?
Et 15 % du vote.
Et à 15 % du vote, voilà. Alors, on a déjà fait une entorse à cette règle-là dans le passé. La dernière élection, le Parti québécois était reconnu comme un parti politique.
Il y a un autre élément qu'il faut absolument changer, c'est la représentation graphique du vote. T'sais. Quand on voit un océan de bleu pâle, si la carte avait été exprimée en termes de nombre d'électeurs, ben, il y aurait eu 60 % de la carte qui aurait indiqué qu'elle n'a pas voté pour le gouvernement. Là, tu as l'impression que Montréal, c'est géographiquement tout petit. Quand on voyait la carte en gros, on ne voyait même pas Montréal, puis on voyait encore moins le centre de la ville de Québec et Sherbrooke, ça a l'air d'une pointe d'aiguille. Mais Si tu représentais Lungava par le nombre de ses électeurs, ça ferait pas le trois quarts du Québec. Ça ferait une petite ligne bleue, très, 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 très petite. Puis le vote du Parti libéral de la CAQ serait beaucoup, beaucoup plus imposant. Pas de la CAQ, mais de Québec solidaire serait beaucoup, beaucoup plus imposant. On a l'impression, en regardant la carte, c'est une mer bleue. D'ailleurs, tout le monde le disait. Ah, c'est une mer bleue pâle, c'est une mer bleue pâle. C'est pas une mer bleue pâle.
Mais dans les faits, là, avec une proportionnelle, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que François Legault aurait dû tendre la main hier à un parti d'opposition pour former un gouvernement.
Oui, parce que...
Théoriquement, là.
Théoriquement, ouais. Oui. D'ailleurs, c'est l'histoire de l'Allemagne qui se répète après chacune des élections, l'Italie. Mais l'Allemagne en particulier, parce que malgré le fait qu'ils ont des gouvernements de coalition, c'est relativement stable en Allemagne. C'est certainement l'exemple dont on peut s'inspirer. Moi, j'ai fait partie d'un gouvernement minoritaire en 2007, puis j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que ça nous force à gouverner d'une autre façon. On était constamment en train de travailler avec les oppositions sur des projets de loi. On les consultait en amont. C'était absolument extraordinaire. Moi, j'ai pas souffert de ça. Et les Québécois, je pense, n'ont pas été perdants dans cette aventure d'un gouvernement minoritaire. Maintenant, la CAQ qui est au pouvoir aujourd'hui, va devoir travailler malgré tout avec les oppositions pour éviter de projeter l'image d'un gouvernement qui est arrogant. L'autre chose dans ce débat sur la réforme du mode de scrutin, il y a aussi l'enjeu ou le débat sur ce que vaut un vote d'un électeur québécois. Moi, je suis un militant du Parti conservateur du Québec ce matin. Là, non seulement je suis frustré, mais je me dis, mon vote vaut-il quelque chose?
Pourquoi j'irais voter?
Mon vote vaut-il quelque chose?
Tu dis que si ce matin on avait eu un gouvernement, un mode de scrutin différemment, le gouvernement ce matin devrait tendre la main à un autre parti pour atteindre la majorité. Si tu n'as pas 50%, tu ne peux pas gouverner. C'est comme ça dans plusieurs pays. Ou alors tu passes en deuxième tour. C'est ce qui vient de se passer
aussi
au Brésil.
Aussi.
Au Brésil, Lula fait 49, Bolsonaro fait 43. Ils doivent partir une nouvelle élection, un deuxième tour qui va durer un mois, et au terme duquel il y a un des deux partis qui va gagner plus de 50% des votes.
Mais notre discussion met en lumière à quel point ce n'est pas simple de faire des virages aussi fondamentaux, parce que notre système, bien qu'imparfait, il fonctionne. Le Québec fonctionne de cette façon, le système uninominal un tour depuis toujours.
Peut-être une petite modification quand même. N'importe quel chef qui fait 10% des votes devrait être à l'Assemblée.
Mais quand tu mets le bras dans le tordeur, mon cher Luc, là, tu mets juste le petit doigt dans le tordeur, là, c'est pas long que...
Ouais.
Fait que quand tu dis on pourrait faire des petits changements,
d'après moi, je pense que Duhaime devrait être à l'Assemblée. Je pense que tu sais, il a fait plus de 10% du vote, poum, tu passes à l'Assemblée. T'as 10% du vote comme chef, t'as un siège. Mais je sais que tu peux pas faire des petites modifications comme ça.
Non,
faut faire une modification qui va durer 4 ans.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.